Bonjour professeur Taconné, vous êtes PEPH à l'hôpital Erasme à Bruxelles et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler du pronostic neurologique de l'arrêt cardio-respiratoire. Y a-t-il des éléments pronostiques cliniques et biologiques précoces d'évaluation du pronostic neurologique ?
Concernant un pronostic précoce, il faut tout d'abord dire que les guidelines qui ont été publiés par la Société européenne de résuscitation, l'AIRC, avec la Société européenne des soins intensifs, donc les ICMA, ne proposent pas d'éléments pronostiques précoces qui peuvent prédire l'outcome neurologique des patients qui ont été réanimés d'un arrêt cardiaque. On voit dans cet algorithme qu'essentiellement, on retrouve que l'imagerie précoce, le CT scan, et la possibilité au niveau clinique d'identifier la présence de myoclonie, surtout un status myoclonique. Évidemment, quand on regarde la littérature, surtout la littérature à partir des années 80, beaucoup d'éléments qui sont liés à l'arrêt cardiaque, la durée de la réanimation, la présence ou pas d'un témoin, le rythme, choquable ou non choquable, au moment du début de la réanimation, étaient utilisés par les réanimateurs, par les urgentistes, comme des facteurs pronostiques. On sait que ce genre de facteurs épidémiologiques, ils n'ont pas la précision pour pouvoir séparer correctement les patients qui vont avoir une récupération neurologique par rapport à ceux qui présentent des lésions neurologiques irréversibles. La clinique aujourd'hui reste limitée par le fait que les malades après arrêt cardiaque sont souvent traités par un contrôle ciblé de la température, ce qui veut dire aussi l'utilisation de la sédation. Et donc, pendant les premières 24-48 heures, souvent, tous les éléments cliniques qu'on utilisait dans les années 80-90, l'examen des pupilles, l'examen moteur, sont donc non fiables. La littérature plus récente, donc tout ce qui est sorti après les recommandations des sociétés savantes de 2014-2015, suggère que probablement, dans la phase précoce, un électroencéphalogramme et la mesure de biomarqueurs pourraient quand même être utiles pour identifier des patients avec des lésions cérébrales extrêmement importantes, au niveau de l'électroencéphalogramme en particulier, la présence de ce qu'on appelle un burst suppression ou un tracé plat, sont extrêmement des forts prédicteurs pour identifier ces patients avec des lésions irréversibles, ainsi que des taux très élevés de certains biomarqueurs qui témoignent la présence de lésions cérébrales, typiquement l'NSE, la neurone specific enolase, sont aussi associés à un pronostic défavorable. On n'a pas encore un cut-off bien identifié, mais des dernières études de cohorte assez grandes, plus de 1000 patients, suggèrent que peut-être plus que 70 ou 80 microgrammes par litre de NSE pourraient identifier des patients avec un devenir défavorable, avec un pourcentage d'erreur inférieur à 5%. Enfin, je voudrais quand même souligner qu'on aura bientôt des données sur la pupillométrie, qui est une analyse quantitative du réflexe pupille dans la phase précoce après arrêt cardiaque. C'est une étude multicentrique qui a été sponsorisée par la Société européenne des soins intensifs. En fait, l'utilisation d'un pupillomètre dans la phase précoce pourrait être extrêmement un bon prédicteur pour identifier les patients avec des lésions cérébrales irréversibles après arrêt cardiaque.
Quelle stratégie d'examen complémentaire pour évaluer le pronostic neurologique ?
Donc, la meilleure stratégie pour évaluer le pronostic neurologique des patients après arrêt cardiaque est une stratégie qu'on appelle une approche multimodale, c'est-à-dire qu'on associe à l'examen clinique des tests paracliniques qui sont l'électrophysiologie, des biomarqueurs de lésions cérébrales, parfois l'imagerie. C'est un peu comme on fait pour un infarctus du myocarde. On regarde la douleur thoracique, on fait un électrocardiogramme, on fait une échographie cardiaque. Eh bien, la même chose on fait pour la lésion cérébrale post-anoxique. On regarde la clinique, on regarde l'électrophysiologie, correspond en fait à l'électrocardiogramme, on fait une imagerie, CT scan ou MRI, et comme pour la troponine, qui est souvent mesurée en cas d'infarctus du myocarde, on essaie de trouver des biomarqueurs qui montrent effectivement la survenue de lésions cellulaires au niveau du cerveau. Cette stratégie est aussi présente dans les recommandations internationales. Donc, on combine l'examen clinique avec, comme j'ai dit, surtout au niveau électrophysiologique, les potentiels évoqués au jour 3 après arrêt cardiaque, l'absence de réponse corticale en stimulation périphérique bilatérale, ce qu'on appelle les N20, est extrêmement prédictive d'outcome défavorable. Et alors, au niveau clinique, l'association d'une absence de réponse motrice et de réponse pupillaire, encore une fois, au jour 3 après arrêt cardiaque, sont ce que les experts considèrent être des forts prédicteurs d'outcome défavorable. Il faut savoir qu'au niveau de la littérature, malgré que le concept d'approche multimodale est effectivement présent dans les guidelines, nous n'avons pas d'études qui ont clairement identifié tout d'abord le gain en termes de précision de diagnostic de outcome neurologique d'une approche simple, par exemple la clinique plus un examen paraclinique versus une approche multimodale, deux ou trois examens paracliniques. Et surtout, c'est que nous ne connaissons pas aujourd'hui quelle est la meilleure combinaison avec la clinique de ces différents tests. Parce que dans la vraie vie, pas tous les hôpitaux ont accès à l'électrophysiologie avec un neurophysiologiste expérimenté, à la mesure des biomarqueurs ou à une imagerie de haute précision. Ce type d'approche multimodale donc, doit être validé dans le futur. Et moi, je dirais l'intérêt du multimodal, à part tous ceux qui sont les éléments au niveau de la littérature, est, quand on discute avec une famille, une forme de rassurance aussi pour le praticien. Quand on va voir une famille, on doit annoncer, par exemple, que le malade a des lésions irréversibles au niveau neurologique. Avoir deux, trois examens complémentaires qui vont tous dans la même direction permet aussi au clinicien d'être beaucoup plus rassuré dans sa démarche éthique et d'avoir plus d'éléments versus ce qui souvent se termine par un arrêt thérapeutique.
Quand peut-on se prononcer sur le caractère péjoratif de l'évolution neurologique ?
Alors, pour répondre à cette question, je commencerai par les recommandations des sociétés savantes. On dit qu'à partir du troisième jour après la fin de la sédation, deuxième, troisième jour après la fin de la sédation, on peut commencer effectivement le processus de l'évolution pronostique du patient qui a subi des lésions post-anoxiques, évidemment chez les patients qui ne montrent pas de signes d'éveil. Il faut savoir que quand on regarde simplement au niveau épidémiologique, voilà, un malade qui n'est pas réveillé au jour 3, jour 4 après arrêt cardiaque, on commence une approche multimodale, il faut savoir que déjà, il n'y a que 15% de ces malades qui vont se réveiller. Donc le fait de ne pas avoir une éveil clinique au jour 3, jour 4 après arrêt cardiaque, identifie déjà des patients à très haut risque d'évolution défavorable. Évidemment, il y a des facteurs confondants. Le facteur confondant majeur est l'accumulation de médicaments sédatifs ou analgésiants, surtout chez les patients en choc, surtout chez les patients âgés, surtout chez les patients avec une insuffisance rénale aiguë. Et donc, la littérature actuelle vous dit que malgré que, à partir du jour 3, jour 4, nous pouvons commencer à évaluer le pronostic de ces malades, si on se base que sur l'examen clinique comme étant un outil performant pour identifier bien le patient qui ne montre pas des signes d'éveil, eh bien, il existe ce qu'on appelle en anglais les late awakeners. C'est des patients en fait, qui se réveillent, qui montrent des signes d'éveil et de conscience tardive. Il y a au moins 4 papiers de la littérature, des études observationnelles souvent sous grande cohorte, qui montrent que ceci peut être entre 7 et 12% des patients pour lesquels on commence un processus pronostique. Et le temps entre l'arrêt cardiaque et le réveil est entre une semaine et 10 jours. Quand on dépasse les 10 jours, donc si on utilise que la clinique pour dire voilà, c'est un malade qui a effectivement une évolution défavorable, en général, à partir du 10e jour après un arrêt cardiaque, l'absence de tout signe d'éveil pourrait quand même être associé à une récupération neurologique dans moins que 1 à 2% des patients. Ceci ne veut pas dire qu'il faut attendre 10 jours chez tous les patients. Si on a l'approche multimodale, on arrive à identifier des patients qui n'ont pas de possibilité de récupération déjà au 3e, 4e jour après un arrêt cardiaque. Et si on n'a que l'examen clinique, il faut savoir les limitations de l'examen clinique et donc il faut attendre une semaine à 10 jours. Je voudrais juste conclure en disant qu'une des avancées des guidelines internationales actuelles, c'est d'avoir insisté sur le fait que nous ne pouvons pas nous prononcer trop rapidement sur l'évolution neurologique des patients qui ont subi des lésions post-anoxiques. Et nous avons tous observé, par exemple dans mon service, que la durée d'observation des patients, même ceux qui pour finir présentent des lésions irréversibles et vont décéder par la suite, a clairement augmenté au 3e, 4e, 5e jour, alors qu'avant, probablement, on arrêtait trop rapidement les soins chez ces patients. Et ça permet effectivement de mieux comprendre comment les tests paracliniques se traduisent par la suite sous des lésions irréversibles neurologiques avec effectivement des stigmates cliniques bien particuliers.